LBM. La voix est libre.
OK, écoutez, là, c'est pas compliqué. Là, quand vous lisez, par exemple, Le Monde, hein, le grand journal français, Turquie et Russie au bord d'une confrontation militaire en Syrie, un autre article tiré de je ne sais trop quelle source, Turquie et Russie à deux doigts de la guerre. D'abord, Luc, est-ce que tu juges ça sérieux, toi, sur l'échelle, mettons, de ton inquiétude, là?
Qu'une guerre frontale éclate entre la Russie et la Turquie, non, je ne pense pas que c'est une chose qui peut se produire.
OK.
Pour toutes sortes de raisons.
D'accord.
Maintenant, ce qu'on a ici devant nous, c'est le régime syrien de Bachar el-Assad qui veut terminer une fois pour toutes la guerre civile qui a été déclenchée en 2011. Et il lui reste un morceau dans la région. Il y a une région qui s'appelle Idlib. C'est là que ça s'est produit hier. Et là, la bataille se poursuit là. Et les Syriens de Bachar el-Assad peuvent compter sur le soutien inconditionnel de la Russie. De Poutine. Et là, vous avez à côté de ça Erdogan, à la tête d'un pays qui n'est pas le dernier venu, la Turquie, une très grande puissance régionale. C'était l'Empire ottoman, le plus grand empire que le monde a jamais connu et qui s'est effondré complètement après la Première Guerre mondiale. Et eux autres, ils ont d'autres considérations. D'abord, ils ont une frontière commune. Ils comptent sur leur territoire en Turquie. 4 millions de réfugiés, de Syriens qui ont fui le pays à cause de la guerre. Et ils tiennent en même temps, ils sont membres de l'OTAN, la Turquie, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Alors, et ils se sont tournés, puis ils ont dit, bon, nous autres, là, si les Européens ne veulent pas nous aider dans cette affaire-là, là, puis ont convoqué une réunion spéciale de l'OTAN, c'est pas compliqué. On retient présentement les réfugiés en Turquie, c'est notre engagement à votre égard, vous, l'Occident. Bien là, on va ouvrir les portes. Okay? Puis ils vont sortir. Puis là, ça va te créer une crise semblable à celle de 2015 quand Angela Merkel avait eu l'idée ou qu'elle avait annoncé qu'elle allait accepter soudainement 1 million de réfugiés syriens. Elle s'en est jamais remis depuis.
D'accord.
Et là, ce qu'on a devant nous, c'est la Russie en même temps, et c'est là que ça devient complexe. La Russie a vécu ou a mis en œuvre un rapprochement avec la Turquie depuis une dizaine d'années, au point où ils leur vendent des armes et tout ça. Donc, il y a comme une drôle de situation. Les Russes n'ont pas envie d'être en guerre avec la Turquie.
Notamment parce qu'ils leur vendent des armes, dis-tu?
Entre autres.
Mais là, il faut juste rappeler, Luc, pour bien se situer, hier, il y a eu un affrontement direct.
Ah, ben, c'est-à-dire que les avions...
Il y a eu une trentaine de soldats turcs qui ont été tués par l'aviation syrienne officiellement, mais dans les faits, on sait que les Russes ont participé à cette attaque contre des soldats turcs. Il y en a eu une trentaine qui ont été tués.
Exactement, 33 soldats turcs qui ont été tués hier.
Ouais.
Et évidemment, c'est un casus belli évident. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont se défendre, les Russes? Puis les Turcs, je veux dire. Alors, où est-ce que ça va mener? Moi, je pense pas qu'il va y avoir de guerre frontale entre les deux. Cependant, Erdogan, lui, continue son petit jeu, puis son petit jeu, c'est que c'est la nostalgie de l'Empire ottoman qui s'est effondré il y a un siècle, et que là, il est en train de faire revivre à ce peuple-là l'idée qu'écoute, nous autres, on n'est pas comme les autres ici, puis on était la puissance centrale de toute cette région, puis là, on va reprendre le rôle qu'on jouait dans ça. Puis en même temps, il souffre d'une maladie obsessive, c'est qu'il y a une peur folle que les Kurdes qu'on retrouve, la nation kurde qu'on retrouve, en partie en Turquie, en partie en Syrie,
en partie en Irak.
Et s'ils se rassemblent ensemble puis qu'ils font l'indépendance, Erdogan, ça le rend malade.
Okay? Ouais.
Alors, c'est de là son intervention dans la guerre là-bas, parce que les Kurdes sont de très, très bons soldats, les fameux Peshmerga. C'est une société très organisée, la société kurde, qui, au fond, jouissait d'une assez grande autonomie, mais qui n'étaient pas souveraines. Ils l'ont d'ailleurs jamais été de leur histoire. Et lui, il se dit, n'importe quoi que vous allez faire qui va mener à plus de puissance chez les Kurdes, je vais m'y opposer.
Oui, puis il faut rappeler, tu as parlé que les Kurdes étaient en Syrie, en Irak, en Iran, mais c'est une importante minorité
en Turquie
aussi, évidemment.
Et dans le cas, par exemple, de l'Irak, c'est la zone de production pétrolière où se trouvent les Kurdes qui, l'histoire est trop longue, on n'a pas le temps de discuter ça à la radio, mais qui sont plus éduqués, ils ont plus d'ingénieurs, sont plus alphabétisés. C'est un peuple qui, dans sa semi-indépendance, s'est développé une voix bien à lui.
Et qui ont été dans plusieurs conflits, notamment les deux guerres en Irak, les alliés des Américains et les alliés des Canadiens. Les Kurdes ont été nos alliés.
Mais clairement, parce que dans le cas présent, là, on est en train de mettre fin à ce qu'on a appelé l'élimination de l'État islamique. Là, et les Kurdes, ils travaillaient avec nos commandos canadiens, les fameux JTF canadiens. Là, et on était là, puis les Kurdes, eux autres, ils étaient en train de gagner l'affaire, puis à un moment donné, bang! Le sympathique Donald Trump a décidé qu'il retirait l'appui finalement aux Kurdes, puis qu'il laissait Erdogan rentrer parce qu'il aime bien les leaders qui donnent des coups de poing sur la table puis qui sont autoritaires.
C'est ça, il a retiré les Américains, puis les Turcs en ont profité. Sauf que là, visiblement, les Russes et les Syriens de Bachar el-Assad commencent à trouver que la Turquie emmène un peu trop large dans la zone où elle est, le nord de la Syrie.
Ils ont décidé d'y envoyer un signal.
Là.
Tu peux pas les ignorer. Là. C'est une des cinq ou six plus grandes, cinquième armée au monde, je pense. Plus d'un million de soldats sous les armes, de l'armement assez moderne. Faut aussi comprendre que la Turquie est beaucoup plus riche que la majeure partie de ce qui les entoure.
Ah oui, j'étais là, moi, l'été passé, m'a dire une chose.
C'est impressionnant, hein?
C'est assez impressionnant, là, la Turquie. Là.
La ville d'Istanbul, là, 15 millions d'habitants, mais qui, infrastructures impeccables.
C'est une économie en pleine croissance, et puis leur niveau de vie, c'est beaucoup, beaucoup accru au cours des dernières années.
Au cours des 25 dernières années, d'une façon extrêmement marquée. Un pays qui... tu peux pas dire, écoute, Erdogan, fais de l'air parce que nous autres, on veut plus te voir ici. Ça marche pas comme ça. C'est une réelle puissance au plan régional.
Oui.
Et comprends-tu que la Russie, ils sont pas loin à côté.
Mais il peut pas se permettre, Erdogan, de se retrouver en guerre contre Poutine. Là. Je veux dire,
Poutine n'a pas du tout envie de le faire, lui non plus.
Mais
la question des réfugiés, ça, par exemple, ça nous concerne tous. Mondialement, s'ils décident qu'ils ouvrent les portes, contrairement à ce qu'ils avaient promis, puis qu'ils aient fait sortir les réfugiés, il y en a 4 millions sur les bras qui les laissent sortir, puis qui les laissent recommencer à marcher vers l'Europe et vers l'Occident.
C'est pas tous des personnages sympathiques, ces réfugiés-là. Là. T'en donnes une couple.
Évidemment, mais purement le nombre, Bernard. 4 millions.
Je sais.
C'est énorme.
Oui, mais si en plus, t'as 2-3 têtes fêlées là-dedans, là.
C'est sûr que t'as des têtes fêlées, là. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Dans 4 millions de personnes, même. Bon. Pense à une ville de 4 millions d'habitants. Dans une ville de 4 millions d'habitants, il y a toujours des têtes fêlées.
Alors, à suivre donc cette situation entre la Turquie et la Russie. On va s'arrêter parce qu'au retour, c'est vendredi, puis on veut finir par une belle histoire qu'on va vous raconter dans un instant.